Bonjour à tous. Je vous propose deux lectures. La première dans Actes 2, les versets 1 à 11, et ensuite Jean 14, 15 à 26. Donc Actes 2, 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Partent, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues ? Des merveilles de Dieu. » Deuxième texte, Jean 14, les versets 15 à 26. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée chaque année 50 jours après Pâques. Alors que Pâques fait référence à la mort et à la résurrection de Jésus, et que l'Ascension célèbre la montée de Jésus dans le ciel, la Pentecôte évoque la venue du Saint-Esprit. C'était aussi un événement majeur pour le christianisme. Est-ce que la fête de la Pentecôte n'est qu'une fête parmi d'autres traditions chrétiennes ? En quoi la venue du Saint-Esprit est une si bonne nouvelle ? Essayons de penser un peu à ce que nous n'aurions pas si le Saint-Esprit n'était pas venu. Et cela nous aidera à réaliser à quel point la fête de la Pentecôte est si importante. Beaucoup de choses auraient pu être mentionnées, mais j'en aborde quatre points. Le premier, sans le Saint-Esprit, point de salut. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous cette nouvelle naissance, nous faisant passer de la mort à la vie. On peut lire dans Tite, au chapitre 3, le verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Sans cette œuvre miraculeuse de l'Esprit, à notre conversion, nous resterions morts dans nos péchés, incapables de nous saisir du salut qui nous est offert en Christ. Le théologien anglais du XVIIe siècle, John Flavel, disait ceci, « Le pansement le mieux préparé n'a jamais guéri la moindre blessure à moins que nous l'appliquions. » Oui, l'œuvre de Jésus à la croix est un pansement merveilleux. Par sa vie parfaite, sa mort, sa résurrection, nos péchés peuvent être pardonnés. Et nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Cependant, il faut que ce pansement de l'Évangile soit appliqué à nos cœurs, pas à nos cerveaux, pas à notre intelligence, à notre cœur. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Cela nous aide à comprendre que le Dieu trinitaire est à l'œuvre pour nous sauver. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois indispensables pour accomplir et appliquer ce salut. Sans le Saint-Esprit donc, il n'y a point de salut. Merci Seigneur pour la venue du Saint-Esprit, de ton Esprit à la Pentecôte. Le deuxième point, sans le salut, pas de vie chrétienne. Pour vivre en tant que chrétien dans ce monde d'une manière qui plaise à Dieu, d'une manière digne, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous ne reste pas inactif. Il produit un fruit qui nous permet de rejeter les œuvres de la chair. On peut se référer à Galates au chapitre 5, les versets 19 à 21 qui décrit tout ce mal et qui sont contraires à ce que Dieu veut et qui nous permet de vivre d'une manière qui est agréable à Dieu. Nous savons en effet que les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est dans le verset qui suit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, la douceur, et en plus, la maîtrise de soi. C'est souvent un produit qui nous manque. Et il y a des disputes. Nous voulons tous vivre d'une manière digne de l'Évangile, mais cela ne se passera pas sans l'œuvre de l'Esprit en nous. Merci Seigneur pour ton Esprit, venu à la Pentecôte, qui nous permet de vivre une vie chrétienne. Troisième point, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vrai changement. Tout le monde veut le changement, n'est-ce pas ? Les pubs que nous pouvons voir autour de nous nous promettent beaucoup de changements. Et pourtant, trop souvent, le changement qui est attendu n'est pas toujours celui qui se passe dans nos vies. Et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte doit nous apporter ce changement véritable. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous dit ceci, « Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Par quoi ? Par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés par son Esprit. Et en tant que chrétiens, nous contemplons la gloire de Dieu en la personne de Jésus. Nous voyons la gloire et la beauté de l'Évangile. Et alors que nous contemplons cela, nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi faire ? Eh bien, pour lui ressembler de plus en plus. Mais cette transformation se fait par l'Esprit du Seigneur. Il s'agit d'une transformation quotidienne, intérieure, humble, pour grandir dans la sainteté, appelée la sanctification. Et c'est ce que fait l'Esprit dans la vie du chrétien. C'est ce que la Pentecôte nous apporte. Et c'est ce dont nous avons tant besoin. Le quatrième point, sans le Saint-Esprit, impossible de comprendre sa parole, de comprendre les Écritures. comme le disait un prédicateur, sans l'Esprit de Dieu, le message de la Bible est comme un message crypté à la radio. Les paroles sont là, le bruit est là, mais nous ne pouvons rien comprendre. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 2. Il faut que l'Esprit de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Au verset 11, il est dit, « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut comprendre les pensées de Dieu, ce qui vient de Dieu. C'est donc grâce à l'Esprit que nous pourrons comprendre les choses de Dieu, y compris sa parole, la Bible, où Dieu s'est révélé. Nous avons donc besoin de la Pentecôte, de l'Esprit de Dieu en nous, chaque fois que nous ouvrons la Bible. Oui, nous lisons avec notre cerveau, en faisant notre maximum pour comprendre et interpréter correctement ce que Dieu veut nous révéler. Mais nous lisons aussi en dépendant totalement de l'Esprit de Dieu en nous, pour nous aider à comprendre ce que nous lisons. Et c'est pour toutes ces raisons que la fête de la Pentecôte est très importante. C'est là que nous voyons Dieu, non plus seulement à côté de nous, ou avec nous, mais en nous. Jésus dit qu'il est préférable pour nous d'avoir le Saint-Esprit en nous plutôt que la présence physique de Jésus à nos côtés. C'est dans Jean 16, le verset 7. Ainsi, le Saint-Esprit est indispensable pour la vie chrétienne. Et cela veut bien dire que la fête de la Pentecôte est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Et elle nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant que chrétien, puis en tant qu'Église. Je dis bien notre vocation, c'est-à-dire notre raison d'être en ce monde, et notre raison d'être est aussi notre responsabilité comme témoin du Christ ressuscité. La fête de Pentecôte nous rappelle que l'Église n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création d'en haut. L'Église est une création de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. La toute première Église chrétienne, le nouveau peuple de Dieu, l'Église, voit le jour suite à l'effusion de l'Esprit Saint, comme l'avait annoncé Jésus, ressuscité à ses apôtres, juste avant son ascension, dans Actes 1, le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'évangile selon Jean, que nous avons lu, fait aussi écho à cette promesse de Jésus concernant la venue du Saint-Esprit après son départ. Donc au verset 16, il dit « Et moi, dit-il, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le veut pas, et surtout ne le connaît pas. Donc il ne peut pas le recevoir, il ne peut pas l'avoir. J'aimerais aussi attirer votre attention sur ce qui constitue l'actualité permanente de cette fête de Pentecôte pour nous. Nous qui souhaitons relever le défi de la mission que le Seigneur nous a confiée et confiée à l'Église, le défi du témoignage et de la présence de l'Église au sein d'un monde qui en a tant besoin. Voyons maintenant comment l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église, et quels sont les signes de sa présence. Et si l'on s'en tient au récit du livre des Actes des Apôtres que nous avons lu, il y a trois mots très puissants et très intéressant, qui semble bien caractériser l'action du Saint-Esprit dans nos vies depuis la première Pentecôte chrétienne. Il s'agit de trois éléments, ce sont le vent, le feu et la parole. Tout d'abord le vent, au verset 2, nous avons lu, du chapitre 2 des Actes, « tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, ou selon la traduction que j'ai lue, d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Le premier signe de la présence de l'Esprit le jour de Pentecôte et dans la vie du peuple de Dieu, c'est le vent, ou plus exactement, un souffle violent qui remplit toute la maison. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans le monde, n'est pas semblable à une petite brise légère d'été. L'Esprit Saint est bien plutôt tel un vent violent, un ouragan ou même une tornade. Le vent de l'Esprit, quand il souffle, souffle puissamment. Et lorsqu'il se manifeste, les choses ne peuvent plus rester comme avant. La présence de l'Esprit Saint apporte un changement radical dans le cours ordinaire des choses et constitue une puissance de guérison et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal de ce monde. Rappelons-nous Moïse au mont Sinaï, lorsque Dieu apparut au peuple tout entier dans une théophanie terrifiante. On peut lire ça dans Exode 19 au verset 16. Il est dit, le troisième jour au matin, il y eut un tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du cor retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Le don de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, réactualise cette manifestation de Dieu lors de l'alliance du Sinaï. Le souffle violent qui remplit toute la maison fait écho aux tonnerres et aux éclairs sur la montagne. Et le vent de l'Esprit n'a rien d'un souffle doux ou léger. Et dans l'Ancien Testament, le mot traduit par vent a plusieurs significations. Tantôt il désigne le vent, tantôt un souffle, ou d'autres fois l'esprit. Donc le mot hébreu est utilisé, le même mot hébreu est utilisé. Ainsi, en Genèse 1, le verset 2, il est dit qu'au moment de la création, l'esprit ou le souffle ou le vent de Dieu planait au-dessus des eaux. Et c'est ainsi que le monde, l'univers tout entier, avec toutes ses galaxies et ses créatures, est le résultat de l'action créatrice de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu, du vent de Dieu. De même, dans Genèse 2, le verset 7, nous lisons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Le souffle puissant de Dieu, le vent vigoureux de Dieu, la force vivifiante de l'Esprit de Dieu apporte la vie. Et c'est ainsi aussi que l'Esprit de Dieu nous redonne vie à nous qui étions spirituellement morts. Car c'est ainsi aussi que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait ressusciter avec Christ et devenir de nouvelles créatures. Comme on peut lire sous la plume de l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, le verset chapitre 2, le verset 1, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. » Au verset 4, « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Le vent de Dieu, lorsqu'il souffle, nous redresse. Change notre comportement, change nos habitudes pour nous faire naître à la vie nouvelle en communion avec le Christ ressuscité. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre dans notre vie, dans la vie de l'Église, ne nous laisse pas intacts. Il renouvelle notre zèle pour le témoignage et gonfle les voiles de notre amour pour Christ, pour son royaume et pour notre prochain. Deuxième élément, le feu. Le second signe par lequel l'Esprit de Dieu manifeste sa présence dans nos vies. Au verset 3 que nous avons lu d'Acte 2, des langues qui semblaient de feu et qui séparaient les unes des autres leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Notez que le feu dont il est question n'a rien à voir avec une flamme légère d'une simple bougie inoffensive. Le feu de l'Esprit, lorsqu'il embrase le cœur d'un homme, ne le laisse pas indemne. mais il le purifie de l'intérieur comme l'or ou l'argent sont purifiés dans la fournaise ardente d'un haut fourneau. Ainsi s'exprime le prophète Malachie, dans Malachie 3, le verset 2, 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils se présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Rappelons-nous la vision d'Ésaïe. Le prophète voit le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au-dessus de lui se trouvent les séraphins qui crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Au verset 6 d'Ésaïe 6, on peut lire « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché expié. » Et c'est ainsi que le feu brûlant de Dieu, le feu consumant et dévorant de l'Esprit de Dieu, a purifié Ésaïe afin de le rendre apte à sa mission. Rappelons-nous aussi Moïse et l'épisode du buisson ardent. Moïse voit un buisson en feu dans le désert, mais le buisson ne se consume pas. À cette vision, Moïse est rempli d'effroi, il enlève ses sandales et de ses pieds, car le lieu sur lequel il se tient est une terre sainte, parce que Dieu lui-même est dans le buisson. Et plus tard, Dieu apparaîtra de nouveau à Moïse et à tout le peuple sur le mont Sinaï, là encore, sous la forme d'un feu dévorant. Et c'est ainsi qu'il s'est manifesté. Exode 19, le verset 18, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Exode 24, le verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Deutéronome 4, 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Le psaume 50, le verset 3, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Le feu qui a purifié Ésaïe et qui a rempli Moïse d'effroi, le feu dévorant de Dieu qui accompagnait la plupart des théophanies dans l'Ancien Testament, c'est ce feu-là aussi qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a revêtu de puissance et a purifié les disciples timorés de Jésus dans l'attente de la manifestation de ses promesses. Et c'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit fait et veut faire de nous des êtres nouveaux, appelés à la sainteté. Le troisième élément que nous avons vu, la parole, c'est donc la troisième manifestation, le troisième signe de la présence de l'Esprit de Dieu, la parole ou le témoignage. Donc au verset 4, nous avions lu, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc le point important ici, c'est le don de l'Esprit. C'est que le don de l'Esprit a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Eux qui, durant les 50 jours qui séparent Pâques de Pentecôte, s'étaient retranchés dans une chambre haute, à l'abri des moqueries et des persécutions, et voilà que tout à coup ils se mettent à parler à haute voix, dans toutes sortes de langues, de sorte que la multitude qui était là présente les entendait parler dans leurs langues respectives. Voilà des merveilles de Dieu, un spectaculaire retournement. C'est que la présence du Saint-Esprit a pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle, la proclamation de l'Évangile à tous les habitants de la terre, préfigurée par ces quelques 3000 âmes qui se sont converties suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission, Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. La vocation de l'Église, la fonction spécifique qui est là, est de proclamer la royauté de son Seigneur et de hâter le jour de son avènement par son activité missionnaire, et ce par la puissance de l'Esprit-Saint. Acte 1, 8, nous l'avons déjà lu, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » D'abord chez vous, c'est ce qui est dit aux apôtres. Vous êtes d'abord mes témoins à Jérusalem, chez vous, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvent, il est important de se rappeler que, bien sûr, il y a le mot évangélisme. Je préfère moi frangélisme. F pour friends, les amis. R pour relatives, la parenté, la famille. A pour associates, c'est tous ceux avec qui nous sommes associés au travail ou dans notre vie quotidienne. N, très important, neighbors, les voisins. Voilà à quoi correspond frangélisme. Voilà quelle est notre mission, voilà où est notre Jérusalem. Avant de vouloir aller ailleurs, nous avons tant à faire dans notre Jérusalem. La Pentecôte est le point de départ de l'évangélisation du monde, la conquête du monde par Christ au-delà des frontières d'Israël. Et l'Église ne vit que du témoignage d'hommes et de femmes qui ont saisi la puissance et la richesse inégalée de l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque l'Église, sous prétexte de vouloir gagner du terrain, s'emploie à utiliser d'autres moyens que la proclamation de l'Évangile, que le témoignage modeste mais plein d'espérance rendu à la Seigneurie de Jésus-Christ, lorsque l'Église ne se préoccupe plus d'abord du message central qu'elle est appelée à rendre devant tous les peuples, il est alors fort à craindre qu'elle perde toute sa raison d'être, comme aussi ce qui fait sa force. Ce qui fait notre force, ce qui fait la force inébranlable du peuple de Dieu, c'est son enracinement en Christ, c'est sa soumission à la parole de Dieu, à la Bible, au témoignage des prophètes, des apôtres, ainsi que sa dépendance absolue vis-à-vis de Dieu et de l'Esprit-Saint. Alors en conclusion, je dirais ceci, qu'est-ce qui nous permet de dire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église? Lorsque l'Église rend témoignage de Jésus-Christ, lorsqu'elle témoigne de son amour et de sa résurrection, nous expérimentons la présence de l'Esprit de Dieu. Dans l'Église des premiers siècles, comme dans celle de tous les temps, l'Esprit-Saint manifeste sa présence par le vent de sa puissance, le feu qui purifie et la parole par laquelle Christ prend possession de son royaume. Connaissons-nous cette présence dans nos vies? Sachons donc, frères et sœurs, nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Soyons comme nous y invite cette fête de Pentecôte, remplis de l'Esprit. Comment cela? Eh bien, tout d'abord, en laissant celui-ci agir en nous, en invoquant sa présence, afin qu'il nous communique aujourd'hui encore son vent puissant, son feu purifiant et son zèle pour le témoignage, afin que sa Seigneurie, la Seigneurie du Christ, soit reconnue pour tous, jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu nous as donné ton esprit, tu nous as communiqué ton souffle puissant, ton feu dévorant, et tu as mis sur nos lèvres ta parole de vie. Pardonne-nous notre manque de zèle, notre manque d'enthousiasme pour ton royaume. En ce jour de Pentecôte, tu nous appelles à aller de l'avant, à lever les voiles vers le grand large, à ne pas rester immobile sur nos chaises, mais à sortir pour témoigner de ton amour et de ta résurrection. Renouvelle en nous ton Esprit Saint, afin que nous sachions nous montrer dignes de ta vocation, celle que tu nous as adressée à chacun. Change nos cœurs, de sorte que nous sachions te servir, te louer, dans le bon nom de Jésus notre Seigneur. Amen.